Bienvenue sur ce balado qui aborde le sujet de la santé des femmes. Le meilleur de soi propose des rencontres inspirantes avec des invités qui parcourent les différents piliers de la santé intégrative. Il et elle partagent une vision holistique de la santé et font la promotion de la prévention pour nous aider à vivre pleinement. Je suis Evelyne Robert, animatrice, et ce que j'aime le plus, c'est de créer ces espaces de rencontres qui nous permettent de se questionner, de réfléchir et d'apprendre. Je vous souhaite donc d'être inspirée pour votre santé. Alors, bienvenue, Karine, sur mon podcast. Je suis très, très contente de te recevoir. Moi, je t'ai connue par l'entremise des Internet. Je t'ai connue en 2020-21 à travers les formations que tu donnais au monastère des Augustines à Québec. Et j'avais pris, évidemment, on avait le temps cette période-là, c'était assez tranquille, disons, et j'avais suivi toute ta formation alimentation intuitive. Et depuis ce temps-là, je te suis, j'ai lu tes livres et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur de te recevoir et je sais que ce que tu vas nous dire aujourd'hui va servir aux femmes de 40 ans et plus. Donc, merci d'être là.
Merci beaucoup pour l'invitation. J'aime ça savoir ça. C'est toujours agréable de parce qu'on sait pas. C'est enregistré, c'est derrière un écran. La même chose pour les livres, on sait pas non plus. Donc merci beaucoup.
Oh oui, c'est un sujet qui est très qui est tellement exploité de toutes sortes de façons, l'alimentation. Puis je trouvais que ton approche d'abord était hyper bienveillante, ta voix était super douce, mais en même temps, ton propos était hyper professionnel. Tu sais, on sentait que c'était appuyé par de la science et tout. Fait que j'ai été vraiment très charmée.
Eh bien, merci, c'est à mon tour d'être charmée. Oui, c'est important d'avoir toujours des données scientifiques, évidemment. Hein, ça fait partie de notre travail de diététiste nutritionniste aussi, mais merci de le souligner.
Exact, oui. Puis, dans le fond, ma curiosité, parce que évidemment, j'ai vu, et en te présentant au début là, du balado, on a entendu que tu as quand même un gros bagage, tu sais, t'as des études, tu fais même des conférences un peu partout dans le monde et tout. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, elle est vraiment définitivement, elle doit être sur son X, mais qu'est-ce qui t'a motivée vers ce? Parce que moi, j'ai fait un peu de cours en alimentation parce que j'ai fait un DEC en danse. Donc, j'étais très intéressée par l'alimentation. J'étais déjà très interpellée par la nutrition de façon générale parce qu'il y a beaucoup d'anorexie, tout ça dans le milieu de la danse. Et j'avais fait quelques formations, mais c'est quand même, on n'y pense pas, mais c'est quand même un sujet qui est vaste, l'alimentation. Puis je me demandais, est-ce que ta motivation était un peu, pouvait ressembler à la mienne, dans le fond, pour t'intéresser à l'alimentation?
Oui, bien, c'est sûr que c'est intéressant de voir après coup, hein, qu'est-ce qui nous a marqué. Puis je pense que, tu sais, pour moi, ça a commencé très tôt, hein. Elle est au courant, mais j'aime souvent dire que ma mère, elle a fait des diètes pendant 26 ans, des diètes amaigrissantes. Donc, c'est comme si je suis née dans la culture des diètes, hein, dès le départ. Au point où moi, je pensais qu'une maman, c'était à la diète. Une femme, c'était faite comme ça. Tu sais, c'est ça à quoi j'avais été exposée depuis mon enfance. Puis là, j'ai commencé à voir que c'était pas comme ça partout. Les mamans de mes amis, ils mangeaient tous les aliments, par exemple. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est peut-être la première graine qui a été semée dans ma tête pour voir, hey, OK, c'est pas comme ça partout. Puis, évidemment, là, il s'est passé bien des années après ça, mais tu sais, je trouvais que je supportais pas l'idée que les femmes se privent, soient malheureuses, soient constamment insatisfaites aussi. Et évidemment, aujourd'hui, je travaille en clinique là, à temps partiel. Ça fait partie de mes activités, puis je le vois beaucoup, des femmes brillantes, belles, avec des beaux parcours, mais qui se déprécient beaucoup. Puis bien évidemment, on travaille là-dessus, mais je trouve que j'avais besoin de faire ma part pour ça, d'étudier ça durant mon doctorat, puis de continuer de faire des activités en ce sens-là. Parce que pour moi, tu sais, c'est comme injuste que ce soit comme ça.
Ouais, mais tu as bien raison. Puis ça, c'est touchant parce que ça paraît, ça vient du cœur à ce moment-là, définitivement. Puis pour toi,
Oui.
l'alimentation intuitive, est-ce que tu as un
Mmh.
parcours en pleine conscience ou de où ça vient?
Ben, j'ai découvert ça durant mon doctorat au tout début, ça veut dire en 2009. Puis ben, c'est ma directrice de doctorat qui m'avait dit, je pense que ça va t'intéresser. Elle m'avait donné un papier scientifique sur le sujet. C'est le premier que j'ai lu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que non seulement moi, je voulais me tenir loin de la culture des diètes et des diètes amaigrissantes. Ben, on peut ne pas suivre de diète, mais on peut avoir une relation avec la nourriture qui est complexe quand même ou qui est pas optimale. Donc, ce que j'aimais beaucoup dans cette approche-là, c'est que oui, c'est une approche bienveillante, mais c'est une approche positive de l'alimentation aussi. C'est comme si, ouais, on suit pas de diète amaigrissante, mais on va vraiment en profiter pleinement. Par exemple, ressentir du plaisir à manger, être bien dans son corps le plus possible. C'est jamais, peut-être jamais parfait, mais il y avait quelque chose aussi de positif et bien sûr des données scientifiques sur le sujet. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et depuis ce temps-là, ben là, ça fait longtemps, mais je travaille avec cette approche-là toujours, là.
Oh, c'est vraiment une belle approche qui, effectivement, moi, ce qui m'a marqué, c'est la relation ou la façon dont on aborde la nourriture.
Oui.
Et, ouais, et la façon dont on le fait en présence, donc dans notre corps, sans être déconnecté.
Ouais. Ben oui, puis tu sais, on est dans une société où on mise beaucoup sur les connaissances, hein, mais c'est très important, je dirais jamais le contraire. J'aurais pas étudié 10 ans à l'université en nutrition, là. Donc, c'est une partie qui est vraiment importante. Mais ce qu'on ressent aussi, ça c'est, puis tantôt je parlais de la société, c'est parce qu'on n'est pas dans une époque où on s'écoute vraiment, hein, ça va vite, puis on cherche souvent la bonne chose à faire, alors qu'il n'y a pas vraiment de recette précise, là. Il y a des principes là, en alimentation, mais après ça, il faut les appliquer à soi. Ça, je trouve que c'est comme une étape des fois qui est un peu, on passe par-dessus, tu sais. C'est important de voir, ben, même s'il y a des recommandations, tu sais, comment nous, on peut les appliquer dans notre vie? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est de prendre cette place-là. Dans l'alimentation intuitive, l'objectif, c'est d'entretenir une relation saine avec la nourriture, l'esprit, le corps. Donc, c'est vraiment nous comme personne. Et il y a une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit que chaque personne est l'experte de son corps. C'est elle la mieux placée pour percevoir les choses. Mais après ça, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, là. Des fois, on a pu se déconnecter en cours de route. On peut travailler là-dessus, évidemment, mais c'est important de la prendre cette place-là. C'est pas une autre personne qui peut nous dire exactement qu'est-ce qui est bon pour nous.
J'aurais bien aimé te rencontrer durant ma période de décadence.
Ah!
Je pense que tu aurais eu un apport important dans notre cohorte parce que le corps, c'est tellement important dans ce milieu-là. Puis on n'utilise pas nécessairement des bonnes méthodes ou des belles méthodes pour prendre soin de nous.
Oui, ben c'est ça. Puis souvent, tu sais, ben on est aussi dans un monde ou dans une époque où on est très préoccupé par notre poids, où il y a beaucoup d'insatisfaction corporelle. Puis souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va un peu décider quel poids on aimerait avoir, quel poids on aimerait peser, puis de travailler fort pour l'atteindre ce poids-là. Alors que là, on est en train d'oublier tout ce qui est non modifiable, en fait, qui explique notre poids. Il y a des facteurs, hein, qui sont non modifiables comme notre génétique, par exemple. Donc dans l'alimentation intuitive, on travaille plutôt avec le poids naturel. On procède à l'inverse. C'est plus de voir, ben, dans mes habitudes de vie, mes pensées aussi, qu'est-ce que je peux améliorer, puis qu'est-ce que ça me tente d'améliorer aussi, puis de travailler là-dessus. Mais tu sais, on pense plus à notre santé. J'aime ça dire, quand je dis notre santé, c'est notre santé physique autant que psychologique, là, ça c'est sûr, ça vient toujours ensemble. On n'a pas deux santé. Puis, ben, c'est de voir. Avec quoi on peut être bien, comment on peut prendre soin de nous, se connecter, et ça va donner un poids au bout du compte qui est notre poids naturel. Donc, l'idée, c'est de développer un lien de confiance avec notre corps ou de le maintenir, s'il est déjà là. Mais après ça, c'est ça, de faire confiance aussi. Quand on ne décide pas de notre poids, on le découvre. C'est plus dans c'est
OK.
l'inverse.
Donc, toi, tu me suggérerais de pas, par exemple, viser un poids que je, t'sais, l'objectif, ce serait pas je veux atteindre tel poids, mais l'objectif, ce serait qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien.
Oui, exactement. Qu'est-ce que je, si je suis, je me rends compte que je suis pas à l'écoute, ben comment je peux l'être davantage, tout ça. Fait que c'est sûr que tu sais, le poids, c'est pas un sujet qui est tabou, tu sais, on peut en parler là, au cours de notre vie, tout ça, mais de parler d'image corporelle aussi, tu sais, de comment on se perçoit, comment on pense que les autres nous perçoivent, ça, on n'en parle pas souvent, puis c'est super important parce qu'on peut se percevoir de différentes façons à tous les poids. Hein. C'est pas parce que on est mince que notre image corporelle est positive et l'inverse, que notre poids est plus élevé que notre image corporelle est négative, au contraire. Tout est possible, en fait. Il y a toutes les combinaisons. Donc ça, comment on se sent, je trouve que c'est pas quelque chose qui est souvent abordé. Alors que si on regarde, j'ai pas de chiffres là-dessus, là, mais tu sais, dans les médias, sur les journaux, tout ça, on nous parle de poids souvent, souvent, mais pas de comment nous, on se sent dans notre corps.
Tellement, tellement. Puis, tu sais, ça dépend aussi de où on vit, parce que dans certains pays, que les femmes rondes sont vraiment les plus belles, tu sais. Puis là,
Oui.
ça me fait penser, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent, en tout cas, un gros pourcentage ont sûrement déjà vécu ça. Moi, des fois, ça m'arrive de retomber sur des photos, justement, de mon époque de décadence ou même de mon époque juste après avoir accouché de mes jumeaux et tout ça. Puis je me dis, mais comment j'ai pu me voir ne pas être correcte, ne pas, tu sais, parce que c'était ça, c'est comme comment les gens vont me voir, tu sais, puis dans ce pantalon-là ou dans ce, tu sais, comment. Puis aujourd'hui, je suis comme pauvre petite, tu sais, si j'avais su. Tu sais, dans le
Oui,
fond, j'étais parfaite.
oui. Mais ça, là, je te dirais là, que ça fait très généralisé ce que tu es en train de me dire là. Puis ça, moi, c'est une chose que j'avais remarqué en clinique à un moment donné. Puis moi aussi, là, je m'inclus là-dedans. On se rappelle que on se trouvait pas correct, qu'on se trouvait inadéquate, puis on voulait changer des choses, alors que c'est ça. Quand on voit les photos aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Puis je me disais, OK, mais là, il y a une insatisfaction qui semble généralisée, là, ça va pas. C'est pour ça que je veux, c'est comme ben pas une mission, là, mais c'est comme si, ben je me dis, il faut faire changer ça. C'est pas normal que la presque totalité des femmes pensent comme ça. T'sais, parce que quand on est en train d'essayer de vouloir se changer, puis d'être insatisfaite, ben on n'est pas à notre plein potentiel non plus. Hein, on se trouve, on n'est pas sûr de nous. Puis, t'sais, donc, c'est pour ça que je me dis, ben, faut qu'on s'en parle, premièrement. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça peut pas rester comme ça, moi, dans ma tête. Il y a des situations, peut-être que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais moi, c'est pas une raison pour que ça reste comme ça. T'sais, je me dis, faut que ça évolue, là. Faut faire
Ouais.
évoluer les choses. C'est des normes de beauté qui sont probablement irréalistes. Puis on dirait que les femmes, on apprend à se trouver pas correct. Ça marche pas, ça.
C'est drôle, j'ai une amie cette semaine à qui justement je parlais de ça. Je me disais, quand chez mes proches, par exemple, on dirait que quand je suis à mon plein potentiel, donc quand je suis plus mince puis tout ça, on dirait que tout d'un coup, je suis quelqu'un d'intelligente, de crédible, qui a une certaine valeur. C'est peut-être moi qui pense ça, mais c'est ce que je sens. Puis, à partir du moment, comme là, j'ai un petit peu de poids en trop, puis un petit peu beaucoup, puis j'ai comme l'impression que tout d'un coup, ma valeur diminue aux yeux des autres, mais ça part de moi, je pense. Qu'est-ce que tu
Ben,
penses de ça?
je pense qu'on apprend aussi à s'attribuer une valeur en fonction de notre poids, mais notre valeur n'est pas liée à notre poids. Mais c'est quelque chose qu'on apprend. T'as raison, on va dire, ben, ça part de moi, c'est moi qui se mets cette pression-là, mais en même temps, on vit dans un monde où il y a une pression énorme pour être mince. C'est ce qu'on nous présente depuis toujours, là. Ben, depuis plusieurs années, mais moi, je me souviens que j'étais enfant. On nous présentait déjà des modèles de femmes minces. Donc, sans analyser tout ça ou lire sur le sujet, ben, inconsciemment, ben, on veut correspondre aussi à ce qu'on nous montre parce qu'il y a des normes de minceur qui sont là dans notre société. Et plus on s'éloigne de ce modèle-là, de cette norme-là, ben, plus on risque de ressentir de l'insatisfaction puis essayer de correspondre à ce qu'on nous propose, t'sais. Donc, c'est en même temps, ben, c'est pas de notre faute. On n'a pas un environnement qui est aidant.
Absolument pas. Moi, je me souviens, ben, ma mère aussi a toujours, mon père aussi, les diètes, les livres de diète, c'était toujours là. Puis, dans notre quotidien, tu sais, je me souviens, là, puis moi, ma première vraie grosse diète, je sais même pas, je pense, j'avais entre 14 et 16 ans, là. Donc, puis j'en ai fait beaucoup. Comme je dis toujours, on dirait que je les ai tout fait, là. Puis ça, je pense aussi que ça a un impact sur notre corps, mais pas juste sur notre psychologique, parce que la façon dont on se traite, c'est pas très gentil, je pense, là, parce que des fois, c'est des diètes qui sont très violentes. Mais en plus de se faire du tort, j'ai l'impression qu'à long terme, ça a aussi un impact sur. On dirait qu'on se sent un peu tout débalancé.
Ben, c'est vrai que ça peut avoir un impact même sur notre potentiel d'amaigrissement. Là, ça dépend toujours, ben, du nombre de diètes, là, de la durée, du niveau de privation, mais je pense qu'il faut quand même penser que toutes les diètes ont des conséquences. Puis ça dépend aussi de chaque personne. C'est pas parce qu'une diète amaigrissante t'sais, va combler nos besoins de base en termes d'énergie, qu'il n'y aura pas de conséquences après, là. C'est une forme de privation quand même. Donc, ça peut avoir des conséquences par la suite. Puis une qu'on connaît, entre autres, c'est de nous déconnecter de l'écoute de nos besoins. Parce que, puis en même temps, t'sais, c'est normal. Parce que s'il y a un plan à suivre, il y a des règles à suivre qui sont là, ben on va pas en plus se demander qu'est-ce que je ressens. T'sais, déjà que c'est du travail, là, des fois, là, faut même refaire une épicerie différente. Des fois, il y a des choses à calculer. T'sais, ça nous demande du temps, de l'énergie, de tout ça. Fait qu'on va pas en plus se dire comment ça va, comment je me sens. On n'est pas là-dedans, là. Donc, c'est pas perdu à jamais, mais on a ce risque-là de se déconnecter de l'écoute de nos besoins, qu'on peut retravailler après, bien sûr, là, mais c'est des conséquences qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont bien présentes.
Donc, c'est possible de quand même éventuellement choisir de marcher un chemin qui est plus sain, puis développer une relation à la nourriture qui est plus saine aussi. Donc, c'est ce que
Oui.
j'entends, c'est très rassurant. Puis, effectivement, il y a les normes de beauté qui sont là, auxquelles on veut correspondre en lien avec la diète, mais dernièrement, tu as sorti un bouquin qui parle de vieillir aussi, parce que ça aussi, c'est comme si les femmes, on n'a pas le droit de vieillir. Pourquoi tu
Non.
t'es intéressée à ce sujet-là?
Ben, ça date, là, je dirais que je vais parler encore d'une graine qui était semée dans ma tête, là. Ça, c'est en 2009, donc ça fait 15 ans et bientôt 16. Je suis allée sur l'île d'Okinawa au Japon. C'est une île où il y a, en proportion de la population, c'est là où il y a le plus de centenaires au monde. Bon, des fois, c'est un petit peu controversé, là, parce que c'est dur, hein, des certificats de naissance à trouver, là. Mais quand même, peu importe, là, même, bon, j'entre même pas dans les chiffres de toute façon, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais c'est que les personnes là-bas, qui ont 100 ans, ou les personnes qui sont très vieilles, elles sont super bien traitées et valorisées, bien considérées. Et ça, ben, moi, c'est ce que j'étais allée étudier durant un stage, puis je trouvais ça tellement beau, tellement logique que ce soit comme ça. Bon, après ça, il y a toutes sortes de raisons là, pourquoi c'est comme ça, mais il y a vraiment un grand respect des personnes. Puis moi, depuis toujours, ben, j'aime ça. Moi, je me souviens, j'ai plus de grands-parents, mais j'adorais ça, être avec eux, tu sais, qui me racontaient toutes sortes de choses. Puis, c'est ça. Ça, je pense que c'est une première chose que je me suis dit, OK, c'est pas comme ici en Amérique du Nord, là, c'est pas comme ça partout ailleurs, tu sais. Fait qu'il y a une première chose comme ça. Puis là, ben, il y a aussi, bon, j'ai écrit T'es belle pour ton âge parce que, ben, au moment de l'écrire, j'avais 48, là, c'est 49. Puis il y a une espèce de non-dit que les femmes, hein, quand ils arrivent à 50 ans, là, puis on l'entend des fois, là, faut comme un peu se tasser, là, de plus être à la caméra, de, tu sais, comme un peu se retirer, là. Puis je me disais, ben, ça me surprendrait parce que. J'ai vraiment plein d'idées, j'ai envie d'être là. Puis je me disais, je me sens en forme, tu sais, ça va bien. Puis je me dis, ben, on a besoin de modèles. C'est pas vrai, ça. Ben oui, peut-être qu'on est plus fatigué, là, on n'a pas 20 ans, et c'est pas pareil quand on a 50 ou 20, là. On s'ajuste, mais c'est pas vrai que ben on est plus bonne à rien puis on n'est pas belle, là. T'sais, je refuse, moi, complètement, ça, là. Donc, je me suis dit, bon, ben, il faut faire quelque chose. Encore une fois, t'sais, c'est comme tantôt, je disais, ben là, il y a l'histoire du poids, là. Ça, il faut toujours être mince et travailler fort. Mais on dirait que là, après, on vieillit. Tout le monde vieillit, c'est normal. Mais c'est comme si là, on nous demande, en plus, d'arrêter de vieillir. Ben, bravo, t'sais, je me dis, comment vous faites ça, vous autres? Donc, c'est pour ça qu'encore là, je me suis dit, ben, il faudrait faire évoluer ça parce que, tu sais, la norme de minceur, puis l'idée aussi de toujours être jeune, c'est comme des normes qu'on a dans notre société, mais une norme, là, c'est pas une loi, c'est pas un règlement officiel, là, on n'a pas besoin de demander de permission, là. Fait que, tu sais, tout ce discours ambiant, là, moi, je me dis, OK, mais on peut ne pas être d'accord, on peut remettre ça en question, s'en parler, se sensibiliser, parce que ça fait pas de sens, là.
Tellement. Ça aussi, c'est drôle parce que c'est des sujets qui me rejoignent. Ben, je suis plus vieille que toi, mais on a quasiment le même âge. Puis quand j'ai parlé de démarrer un podcast, c'est venu sur le sujet, mais pourquoi à ton âge? Tu sais, pourquoi tu pars encore un autre projet? Pourquoi tu prends encore des formations? Genre,
Ah oui.
on n'est pas mort à 50 ans, là.
Ben, vraiment pas, puis on a plus d'expérience aussi. Moi, je regarde ça, puis je trouve ça super le fun dans mon travail maintenant. Pas que c'était pas le fun au début, mais oui, on a plus d'expérience aussi, puis peut-être qu'on voit les choses différemment. Puis, tu sais, je me disais, ben, si les normes de beauté sont déraisonnables, c'est les normes qu'il faut remettre en question, parce que ça peut se modifier dans le temps. C'est pas aux femmes à se trouver constamment inadéquates. Les choses qu'on nous impose, puis une autre affaire aussi qui m'énerve, c'est qu'il y a des doubles standards aussi. Au niveau des hommes, des femmes, là, un homme qui vieillit, c'est pas pareil, hein. C'est une belle maturité, c'est charmant. Mais une femme, ça, c'est pas la même chose. Il faut cacher les choses tout le temps. Donc, ça aussi, moi, ça vient me chercher. Je me suis dit, OK, il y a une injustice ici, là. Ça, c'est important de le souligner.
Et puis on dit beaucoup que ça vient des médias, du marketing, la publicité, tout ça, mais j'ai l'impression que ça part de nous aussi, la société, parce qu'on le voit ailleurs. Je veux dire, la publicité, tout le monde la voit partout. Puis c'est pas partout que les femmes vieillissantes sont moins, ont moins la cote ou que les femmes qui sont plus rondes sont moins, je veux dire, moins belles.
Oui, c'est ça. Oui, ben en fait, puis j'ai écrit d'ailleurs un chapitre là, sur les diversités, parce qu'on n'est pas exposé tant que ça à la diversité. Puis là, je parle pas seulement de poids et d'âge, mais ça, la diversité, par exemple, de couleurs aussi, toutes sortes de diversités sexuelles, de toutes les diversités possibles. Je pense qu'on en voit de plus en plus. Ça fait du bien. Mais il y a encore beaucoup de place pour que tout le monde soit représenté parce qu'on a besoin de voir des modèles, on a besoin de voir des choses différentes, tu sais. Puis des fois, tu m'imagines, mais depuis toujours, là, on avait été exposé à de la diversité ou des diversités. Peut-être que je n'aurais pas de travail. Non, je serais autre chose, c'est sûr. Mais dans le sens que il y aurait, on dirait qu'on peut-être qu'on serait plus heureuse si tu es heureux, j'ai l'impression. Ça serait comme plus normal d'avoir des caractéristiques différentes. Tu sais, si on l'applique seulement à l'âge, là, si on disait pas ça tout le temps que c'est grave de vieillir, que c'est pas correct, que c'est pas beau, ben déjà là, je me dis, on se poserait pas toutes ces questions-là, puis on n'essaierait pas de se modifier tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est en tout cas, moi, j'aime bien ça refaire le monde dans ma tête, là, mais...
Mais ça prend des gens
mais...
comme toi, tu sais, pour nous inspirer à des grands changements. Moi, je souhaite ces grands changements-là aussi pour les femmes, là. C'est pour ça que je fais le podcast, entre autres.
Puis, tu sais, je pense que, tu sais, ce que j'aimerais, c'est qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'on veut, avec quoi on est bien, tu sais, au lieu d'essayer de constamment se conformer à des normes. Mais en même temps, tu sais, de pas se faire dire quoi faire. Tu sais, moi, je veux pas non plus dire... dire comme un exemple que j'aime bien donner, c'est par rapport aux cheveux, là. Quand on approche 50 ans, on voit ça sur l'Internet, des fois, ah, là, il faudrait avoir telle coupe de cheveux, là, tu sais, les coupes pour les femmes dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Puis là, ouais, ça raccourcit, ça raccourcit. Puis après ça, ben là, il y a comme cette obligation-là d'aller peindre nos cheveux. Puis, tu sais, moi, je dis pas, ben non, faites pas ça, faites le contraire, c'est pas ça non plus, parce que moi, je veux pas qu'on me dise quoi faire. Je trouve que c'est paternaliste, donc je vais pas faire la même chose. Mais après ça, c'est plus de voir, ben toi, avec quoi tu es bien, tu sais, que tu ne te sens pas obligé d'avoir une certaine longueur ou une certaine couleur de cheveux. Puis que si tu aimes les teintes, ben tu les teintes, puis c'est correct, tu sais, puis qu'on arrête de critiquer. Ce serait ça, j'aimerais vraiment ça qu'un jour ce soit comme ça.
C'est une des grandes erreurs, je pense, qu'ont fait les femmes. Puis tu l'avais nommé là, dans le questionnaire que je t'avais envoyé, de vouloir toujours atteindre la perfection, puis répondre à ce standard-là, au lieu de vouloir atteindre le bien-être, puis d'être connecté à nos réels besoins, nos réelles envies, tu sais.
Ouais. Mais c'est dur, ça, parce que quand il y a des normes qui sont là, des normes de beauté, inconsciemment, on va chercher à y correspondre, parce que si on n'y correspond pas, ben, il y a comme un genre de désapprobation sociale, tu sais, c'est pas, ça va à l'encontre de ce qui est bien vu, tu sais, fait que des fois, on peut se sentir un peu seul là-dedans, mais... Tu sais, je me dis toujours, mais je pense qu'on peut y arriver quand même, là. Mais tu sais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à faire, parce qu'on sent que des fois qu'on peut aller un peu à contre-courant, là, dépendamment de nos proches, de nos milieux, parce qu'il y a des personnes pour qui il y a beaucoup de pression autour d'elles, puis il y en a d'autres que c'est pas comme ça, tu sais, fait que ça dépend aussi de notre environnement, mais je pense que, tu sais, les choses peuvent s'expliquer, puis on peut s'ouvrir, là, et changer des fois nos façons de penser.
Ben, ça part de nous. T'sais, si nous, on s'accepte comme on est, les
Ouais.
autres autour vont peut-être s'ajuster à ce moment-là.
Oui, ben exactement. Puis tu sais, ben en même temps, ben une autre difficulté, c'est qu'on apprend très jeune, hein, les femmes à devoir plaire. Souvent, c'est comme ça, hein, on le voit. Hein. Puis là, j'y vais plus dans les stéréotypes, mais c'est quand même documenté, mais ça demeure des généralités. Mais les garçons vont apprendre à développer des capacités, à être compétitifs, à tu sais, il y a une forme d'action, alors que les petites filles, on apprend à être belles. Puis c'est souvent ce qu'on reçoit comme compliment, là. Au lieu de dire qu'on est intelligente, qu'on est brillante, là, ben, on est belles, nous autres. Et là,
Les filles sont belles, les gars
je
sont forts.
dis... Oui, mais je dis pas que c'est comme ça tout le temps, là. Je pensais que je disais que c'est des généralités, là. Ça veut pas dire que nécessairement, nous, individuellement, c'est comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui est documenté. Et c'est pour ça que c'est important de valoriser autant les garçons que les filles, c'est la même affaire, oui. On est
Exact.
capable aussi, là.
Absolument, absolument. Puis c'est vrai, ça, c'est dès le jeune âge, là, puis autant pour les deux sexes, là. Tu parlais aussi de pensée catégorique, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça aussi, c'est un discours, tu penses qu'on devrait pas aller là?
Ben, en fait, on l'entend beaucoup en alimentation, hein? Tu sais, des aliments bons ou mauvais, permis ou interdits. Puis là, ben, si je pense aux diètes amaigrissantes, ben, on réussit ou on échoue. Tu sais, c'est noir ou blanc. Alors que, ben, tu sais, l'alimentation, c'est pas comme ça. C'est rempli de nuances. Donc, puis tu comprends que c'est plus simple quand c'est noir ou blanc. Tu sais, il y a deux options possibles, mais la
Ça va
réalité, c'est
plus
pas comme
vite.
ça.
Ça va plus
Oui, ça
vite.
va.
T'as besoin
Ouais.
d'aller vite. T'sais, fait que je pense que c'est ça aussi.
Ouais. Parce que quand on y pense comme il faut, c'est impossible de manger des aliments qu'on considère bons 100% du temps. Nécessairement, on va en manger des fois qu'on considère mauvais, je le mets en guillemets, là, bon, mauvais. À ce moment-là, ben, on est déjà dans une situation d'échec qui est automatique. T'sais, on va se culpabiliser. Puis ça, la culpabilité alimentaire est tellement présente. T'sais, l'impression de jamais faire la bonne chose. Je pense que quand c'est comme ça, là, c'est bien de s'en rendre compte. Puis si c'est possible de soit lire là-dessus, travailler là-dessus, parce que notre relation avec la nourriture, Elle n'est pas supposée être si compliquée que ça. Tu sais, tantôt tu disais, on s'attribue des fois une valeur en fonction de notre poids, on peut s'attribuer une valeur aussi en fonction de ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas. Puis, c'est pas sain comme pensée ou comme comportement. Ça devrait quand même être plus spontané un petit peu que ça, là. Tu sais, nos besoins, apprendre à être à l'écoute de nos besoins, de nos préférences. Puis, si notre corps, ben, c'est une belle source d'information aussi.
Le
Ouais,
corps parle.
ben c'est ça. Il parle pas avec des mots, lui, mais tu sais, comme d'apprendre à ressentir les choses. Donc, pour pas toujours justement être dans une situation d'échec, c'est pénible, là, quand on se culpabilise tout le temps. Puis tu sais, une autre chose aussi, on est dans une société de performance, hein, puis tu sais, notre nourriture, là, nos aliments, là, c'est pas, on n'est pas obligé. J'allais dire, on n'est pas obligé, non seulement on n'est pas obligé, mais on n'a pas à performer ce qu'il y a dans notre assiette, là. Ni à performer notre vieillissement, puis notre poids non plus, mais tout est toujours, j'ai l'impression, une performance. Il y a toujours comme une pression là, à devoir faire les choses parfaitement, alors que ben on peut se contenter de les faire bien ou très bien, puis ça va être correct,
Ça fait du
là.
bien d'entendre ça. Dans les dernières tendances avancées que moi j'ai vues au niveau de l'alimentation, c'est vraiment l'alimentation intuitive. Est-ce qu'il y a une différence entre l'alimentation intuitive et l'alimentation en pleine conscience?
Ouais. Ça se ressemble beaucoup, mais oui, il y a des petites différences, là. L'alimentation intuitive, il y a des principes, là. C'est pour s'inspirer, là. Il y a 10 principes. Dans l'alimentation pleine conscience, il n'y a pas de principe. Aussi, dans l'alimentation pleine conscience, il y a officiellement, là, une partie plus méditation qui est là. Souvent dans les études, ça va être la pratique du yoga qui est là. Donc ça fait partie de l'alimentation pleine conscience, mais tu sais, c'est parfait de faire ça tout le temps, hein, même si on s'intéresse à l'alimentation intuitive. Fait que, tu sais, il y a des petites distinctions, mais pour les deux approches, on va être à l'écoute de de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos sensations de faim et de rassasiement. Donc, il y a quand même beaucoup de similitudes, là.
Ça, c'est vraiment, vraiment émergent, je pense, hein?
Ouais, ben tu sais, c'est des approches. Moi, je travaille plus avec l'alimentation intuitive, mais tu sais que la première fois qu'il y a quelque chose qui a été publié, que ça a été nommé, c'est en 1995. Là. Fait que ça fait quand même beaucoup d'années. Après ça, ben là, ça a été plutôt tranquille. Puis il s'est mis à avoir plus d'études dans les dernières années. Il faudrait que je vérifie, mais c'est exponentiel, là. Donc, il y a vraiment un intérêt, mais peut-être que ça vient justement répondre à ce besoin-là de se recentrer. Puis d'être à l'écoute de nous aussi. Des fois, quand tout va trop vite, ben on a peut-être plus le goût de revenir à ça aussi. Fait que c'est en réponse aussi aux diètes amaigrissantes. Tu sais, les diètes amaigrissantes sont bien populaires. Ça prend beaucoup de place, mais c'est peut-être qu'en même temps, on veut autre chose aussi. Des fois, ben moi, ça fait partie beaucoup de ma clientèle, mais d'hommes, de femmes qui en ont assez là, de suivre des diètes. Fait que des fois, c'est comme un beau chemin à prendre là, pour se guider, pour faire découvrir les aliments, puis travailler la relation avec la nourriture différemment.
Définitivement, ça semble beaucoup plus sain que les diètes. C'est vraiment plus comme un mode de vie ou un changement de paradigme.
Ouais, puis qu'on veut que ce soit là à long terme aussi, que ce soit pas à recommencer à chaque année, là. Mais à date, c'est ça que je vois, là. Mais tu sais, c'est ça parce que là, on devient plus confortable parce que c'est ça. Parce que sinon, tu sais, des fois, je fais la comparaison avec les diètes, ça aide à comprendre, mais les diètes, ben, on les recommence souvent, généralement. J'en ai des fois des clientes qui en ont jamais suivi ou qui en ont suivi une, là, ça peu, mais la plupart du temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a eu plusieurs, puis des fois, il y en a eu pendant des décennies, là, où des femmes qui vont me dire, là, ben, moi, là, j'ai tout essayé. Vraiment. Ça arrive souvent. Évidemment, c'est les femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'aide aussi, là. Si on allait dans la population générale, ce serait peut-être différent. Mais on sait, avec le chiffre d'affaires de l'industrie de l'amaigrissement, là, je peux confirmer que c'est encore très populaire.
Ouais, puis tu dis que ça dépend beaucoup des personnes, mais des petits changements qu'on pourrait faire au quotidien pour bien prendre soin de nous par rapport à l'alimentation, Tu dis de vérifier nos motivations au changement.
Oui.
Puis ça, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, OK, mais souvent nos motivations viennent de l'extérieur. Donc, la question, c'est-tu nos motivations? Vas-y donc.
Je trouve ça super intéressant comment tu dis ça. En fait, tu sais, il y a des exemples de pensées ou de comportements qu'on peut améliorer. T'sais. Ça existe. Puis, pour donner des exemples, j'y vais avec quelque chose de vraiment simple, là, mais manger plus de légumes. Bon. Mais tu sais, au lieu comme de prendre ça, puis tout de suite là, aller m'acheter plein de légumes, moi, je trouve ça intéressant de se demander pourquoi ça me tente d'augmenter ma consommation de légumes, d'où ça vient, tu sais, de voir c'est quoi cette motivation-là. Est-ce que je suis en train de faire ce que je pense qui est correct de faire, ou si c'est parce que j'en ai vraiment envie aussi, j'ai l'impression que c'est pas moi, j'en mange moins, puis ça va me faire du bien, puis je vais vérifier comment je me sens. Tu sais, mon exemple, il est vraiment bébé Lala, là,
Mais on
mais
comprend
ça.
bien.
C'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour mieux comprendre l'exemple des légumes, là, c'est comme un classique. Donc, c'est ça. Donc, je vais voir aussi qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Je vais m'assurer d'y aller graduellement aussi, ce qu'on n'a pas tendance à faire toujours. Si je le vois, entre autres, dans l'activité physique, tu sais, de vouloir bon, ben, en faire tout d'un coup. Tu sais, puis c'est intéressant de voir ben, si j'en faisais pas beaucoup ou même si j'étais sédentaire, ben, d'explorer pourquoi. Tu sais, pas pour se juger ou se prendre en défaut, mais plus pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais. Est-ce que j'en ai déjà fait dans le passé? Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, plutôt que, là, je sais que la course à pied est populaire, là, mais on n'est vraiment pas obligé de courir. Tu sais, il y a d'autres choses qui existent. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais des fois, vu que c'est populaire, ben, on va aller vers ça parce qu'on perçoit que c'est mieux. Tu sais. Fait que, je pense que c'est comme de prendre un temps d'arrêt pour vraiment voir c'est qu'est-ce que j'ai envie puis pourquoi je fais ça. Est-ce que, par exemple, je le fais pour perdre du poids? Ou je le fais pour me sentir bien, être plus en santé. Si on parle d'activité physique, là, moi, j'aime bien dire, moi, là, je fais ça pour ma santé mentale en premier, là. Ça fait vraiment du bien. Ça, c'est ma motivation à moi, mais c'est peut-être pas ça là, pour une personne à côté. Donc, vraiment, plus de, encore là, de prendre ce temps d'arrêt-là, moi, je trouve que c'est comme d'avoir de bonnes fondations. C'est plutôt que de prendre des recommandations, puis pouf, les appliquer telles quelles. Sans se demander est-ce que ça correspond bien à mon contexte, est-ce que j'ai le temps de faire ça, est-ce que c'est quoi mes responsabilités, tu sais, de vraiment y aller avec du concret, là, d'explorer aussi c'est quoi qu'est-ce qui est facilitant pour nous, c'est quoi mes contraintes, puis vraiment d'adapter ça. Et, évidemment, des fois, on a besoin d'être professionnel aussi, là. Là, je dis tout ça rapidement, là. Mais je trouve que je risque plus à ce moment-là de mettre les chances de mon côté pour que ça fonctionne à long terme, là, ce que je suis en train de changer.
C'est drôle parce que plus tu parles, plus je réalise c'est comme si, ben, ce qui montre, l'alimentation intuitive, c'est comme un long chemin où il faut prendre le temps. Puis juste de me poser la question, mais pourquoi j'irais me chercher plus de légumes? Pourquoi je le fais? Ça fait comme monter, mais tu sais, ça fait monter comme un peu l'anxiété de j'ai-tu le temps de faire ça? Tu sais, de commencer à me poser des questions sur tout, mais en même temps, si je le fais pas, ça durera pas dans le temps, je pense.
Ben, c'est plus risqué, disons. On souhaite que ça fonctionne, mais ben, c'est ça. C'est plus de s'interroger, mais oui, on aime que ça aille vite, moi la première, là. Mais des fois, c'est ce que je pourrais dire, puis je fais souvent, encore là une comparaison avec les diètes, mais dans les diètes, par exemple, tout est déjà déterminé. Quelqu'un d'autre a déterminé les règles à suivre, fait qu'on va suivre ça. On a l'impression que ça va plus vite, hein, sur le moment. On n'a pas plein de questions à se poser. Comparativement à une approche comme l'alimentation intuitive, oh là, on part pas en modifiant des comportements, on observe là, au début. On se pose des questions aussi, tranquillement, ben ah, on trouve des choses, on voit ce qui va bien, on voit ce qui peut être amélioré, puis après ça, tranquillement, on travaille là-dessus, mais ça, c'est pas quelque chose qui est rapide, mais on est plus dans le lentement, mais sûrement. C'est comme graduel, on fait pas vite, mais ce qu'on change souvent, ben, c'est à plus long terme parce qu'on est plus confortable avec ça, on est mieux. Donc, c'est vraiment différent comme approche. Puis des fois, là, hey, c'est dur quand on est habitué que tout aille vite, puis là, OK, on le fait. Puis là, des fois, quand on est habitué de suivre des diètes intermittentes, ben c'est ça, tu sais, on la suit, la diète, ou on la suit pas, là. Donc là, ça demande de vraiment être patiente. Mais des fois, c'est un peu plus difficile. Mais c'est important de se rappeler que notre relation avec la nourriture et avec notre corps assez développé, hein, sur des années. Fait que c'est important de se laisser du temps pour comprendre tout ça, puis de modifier des choses. Ça ne veut pas dire que ça va prendre le même nombre d'années à apporter des changements, là. Mais tu sais que c'est pas normal qu'en 2 semaines, tout soit correct. Puis tu sais, en passant, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'au bout de 2 semaines, que tout allait bien, là. Mais tu sais, c'est important de se le rappeler pour se calmer un peu.
C'est drôle parce que ça me fait penser à deux choses. Il y a une pensée qui dit l'important prend du temps. Puis il y a une autre chose aussi, j'ai étudié en gouvernance d'entreprise. Puis il nous disait toujours que, c'est drôle que je fasse le lien avec ça, mais il disait toujours, quand on installe quelque chose dans une entreprise, plus ça prend de temps à l'installer, plus ça va être solide et plus on va vite dans notre prise de décision. Par exemple, quand on prend des décisions rapides sur... Bien, plus ça risque de tomber versus que si on prend plus de temps dans notre prise de décision à vraiment s'assurer que tout le monde est bien autour de la décision et tout ça, bien là, à ce moment-là, ça va durer dans le temps. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça. Faut qu'on a ça à apprendre aussi, à prendre le temps de prendre soin parce que ça prend du temps,
Oui.
parce que c'est important, tu sais.
Oui, puis notre corps humain, il va pas à la vitesse des technologies, là. C'est pas comme ça que ça marche, là. Faut
C'est
en
ça, on
prendre soin,
compétitionne
c'est ça.
avec la
Oui.
technologie.
Oui. Puis nos comportements, tu sais, puis dans notre corps, ça va pas vite comme ça, tu sais, mais je dis tout ça, là, puis moi, je suis une personne qui aime ça aller vite, là, pour plein d'affaires. Je pense que, tu sais, si je fais la vaisselle vite, si je fais le ménage vite, si je marche vite, c'est correct, là, mais manger, c'est pas pareil, tu sais, de dire, ben, je vais prendre le temps de manger, là, de prendre le temps de m'asseoir ou prendre le temps de me questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, ben, c'est comme si ce temps-là, c'est un investissement. Non, c'est pas une perte de temps. Puis tu sais, même prendre le temps de manger, ça, c'est un enjeu, là, souvent pour certaines personnes. Puis il y a beaucoup d'avantages à manger lentement, là. C'est pas juste pour une affaire qui est recommandée par Santé Canada, là. Comme ça, par hasard, mais de prendre le temps de ressentir de la satisfaction, de vraiment bien digérer. Tu sais, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, là. C'est pas juste mettre des nutriments dans notre corps, là, manger.
C'est pas juste de nourrir notre corps, mais c'est aussi de comment le nourrir, parce que si on lui envoie ça vite, ça stresse aussi les organes internes, j'imagine.
Puis ben, c'est parce on n'a pas assez de temps pour apprécier non plus, pour goûter. Moi, j'aime ça travailler avec les 5 sens, là. Tu sais, au niveau des caractéristiques sensorielles des aliments. Puis vraiment, là, j'appelle ça faire l'expérience des aliments, là. Bon, et je comprends qu'on fait pas ça tout le temps, là, mais des fois, on peut le faire un petit peu à travers nos repas quand on est plus pressé. Mais tu sais, ça permet vraiment d'en profiter pleinement. Tu sais, que ce soit pas automatique. Moi, j'amène souvent mes clients à voir ça différemment, tu sais, parce que souvent, les choses se font de façon automatique. Fait que là, on explore pour voir, ben, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui peut être amélioré. Puis après ça, ben, tu sais, on peut aller vers quelque chose qui est plus conscient.
Puis, pour nous aider, évidemment, on n'appelle pas tout le monde téléphone Karine Gravel pour avoir un rendez-vous. Tu as parlé, tu as des ressources, des organismes, des balados.
Oui, j'en ai beaucoup. Puis là, j'ai noté, là, je pourrais dire les principaux, là. Évidemment, tu sais, si on a besoin d'aide en nutrition, on va sur le site de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Tout est là. Ça c'est bien. Sinon, au niveau des organismes, parce que là, j'ai pensé, sans consulter, des fois, on aime avoir des ressources, des outils. J'en parle un petit peu. Entre autres, j'aime bien, puis ils sont Tout le monde est sur les réseaux sociaux aussi. On peut les suivre. Il y a des infolettres. Je pense à Arimage, entre autres. C'est un organisme en estrie qui a des guides de référence, entre autres, sur la grossophobie. Il y a des activités, des conférences en ligne, souvent gratuites. Donc ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vais en faire une sur l'alimentation intuitive le 5 mars prochain. Puis ensuite, je pense à Apparence trompeuse au pluriel qui vient. En fait, c'est une initiative de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, eux, ils vont dénoncer les fausses promesses sur l'industrie de la minceur. Donc, on peut même porter plainte, là. Il y a tout ce qu'il faut qu'il a. Et évidemment, l'organisme Équilibre, qui a des campagnes à chaque année. Il y a, entre autres, une que j'aime beaucoup, moi, c'est la semaine Le poids sans commentaire, là, qui est à la fin du mois de novembre à chaque année. Donc, pour se sensibiliser, justement, aux commentaires sur le poids puis aux effets négatifs que ça peut avoir. Puis, sinon, ben, les balados pour l'alimentation, un qui le préféré de beaucoup de monde, c'est On s'appelle et on déjeune de Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre, qui sont nutritionnistes tous les deux. Puis ça, c'est disponible sur l'application audio Radio-Canada. Il y a aussi À plat ventre avec Louni. La première saison est sur la culture des diètes au complet, tous les épisodes. Et la deuxième saison sur la culture du bien-être. Donc, ça aussi, c'est très d'actualité, c'est vraiment intéressant. Sinon, pour les troubles alimentaires, il y a sur la même plateforme toujours, il y a Dans le trouble de Geneviève Garon, qui est vraiment intéressant aussi. Puis voilà, mais je pourrais tellement parler longtemps, mais tu sais,
On peut
déjà
lire aussi,
en allant, oui, exactement,
on
en
peut
allant
lire tes
voir
deux livres, hein? On peut lire tes
ça.
deux livres, Karine, qui sont
Oui,
vraiment
ben
intéressants.
oui, je peux les nommer, là. Le premier, c'est de la culture des diètes à l'alimentation intuitive, réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses,
Il
qui
est
a été
sorti
publié,
en
et là,
2021, celui-là.
exactement, oui, c'est ça, mais là, je pense qu'il va être en réimpression bientôt, là. C'est publié chez K.O. Édition et là, je viens de publier là, au mois d'octobre 2024. C'est belle pour ton âge, réflexion sur le poids, l'alimentation et le droit de vieillir en paix.
Il y a beaucoup de choses aussi sur ton site Internet.
Oui, ben oui. N'hésitez pas à aller voir même sur Facebook, Instagram, pour les personnes sur les réseaux sociaux, de suivre. Il y a plusieurs diététistes nutritionnistes aussi, ça assure d'avoir du contenu qui s'appuie sur la science, puis d'avoir du contenu de qualité aussi. Fait que ça, c'est certain, là. Fait qu'on peut essayer de se créer comme un environnement bienveillant, un environnement en ligne, là. Tu sais, que c'est du contenu qui nous fait du bien. D'ailleurs, ça, c'est une des choses, hein. J'invite souvent à faire du ménage. Tu sais, quand on reçoit toutes sortes d'affaires qui nous font remettre en question, qu'on se sent pas bien ou qui vont, par exemple, valoriser la minceur tout le temps, puis qu'à chaque fois qu'on voit les images, on sent qu'on est inadéquate, mais peut-être c'est bien de faire un ménage de ce côté-là. On n'a pas le contrôle sur tout, hein, quand je parle d'environnement bienveillant, mais quand même, ce qu'on voit dans nos réseaux sociaux, on a quand même un certain pouvoir dessus.
Quand, oui, on a le pouvoir de choisir, tu sais,
Oui.
ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on suit. Puis il y a un organisme aussi qui t'a vraiment qui a influencé ta carrière. Je sais pas s'il existe encore, l'organisme Équilibre pour l'image
Oui,
corporelle.
oui,
Ça
oui, oui.
existe?
Ben c'est ça. Tantôt, oui, la campagne de poids sans commentaire, ça vient de eux,
OK.
d'Équilibre. Puis
OK.
oui, en fait, ben ça c'est quand j'étais à la fin de mon baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. Fait que ça, on doit être aux alentours de 2003, 4, 5, là, quelque chose comme ça. Puis avant l'organisme Équilibre, qui est bien connu, c'était le CAAO,
OK, c'est
c'était
ça.
Collectif Action Alternative en Obésité. Ça s'appelait comme ça, puis après, là, c'est devenu Équilibre. Fait que c'est comme l'ancêtre d'Équilibre. Et je me souviens d'une dame, là, je me souviens même plus de son nom, qui était venue nous présenter une conférence, c'était à l'Université Laval. Wow! Hey, tu sais, des fois, on écoute quelque chose qu'on étudiant, là, ça vient comme c'est une révolution dans notre tête, là, mais c'est un peu ça. Tu sais, de voir que, OK, mais il y a autre chose que le désir de perdre du poids constamment. Il existe l'image corporelle, considérer la santé. Donc, on était vraiment dans un nouveau paradigme. Fait que ça, moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça. Ça m'avait
Après
vraiment
ça,
marqué.
Puis après ça, en 2009, il y avait la journée de la nutrition qui était intitulée à l'époque L'art de déguster. Ça
Oui,
aussi, ça t'a
l'art de
marqué.
déguster, le plaisir de manger. Ça, là, c'était dans c'était un voyage en France. Puis j'étais allée à cette conférence-là. Puis c'est la première fois que je voyais ça, tu sais, de se servir des cinq sens, là, de l'expérience sensorielle de manger appliquée au comportement alimentaire. T'sais, on déguste ici en Amérique du Nord, là, c'est correct, mais là, il y avait vraiment cette dimension-là t'sais, c'était appliqué dans notre relation avec la nourriture. Puis ça, c'était juste avant que je commence mon doctorat en nutrition. Fait que je suis vraiment allée vers ça. Je me suis dit, ah, mais je veux qu'on ait des données, je veux qu'on ait des études scientifiques là-dessus. Je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il y a une forme de jeu aussi, puis c'est ludique de déguster, hein, mais il y a une forme d'expérience aussi. C'est pas juste de la théorie puis des grands principes, là, on l'expérimente. Donc ça, je trouvais ça vraiment, vraiment fun. Peut-être que c'est biaisé parce que moi, j'aime beaucoup ça, là, mais ça, ouais, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué.
Mais ça, en tout cas, ces choses-là qui ont influencé ta carrière, je trouve que, en tout cas, ça apporte beaucoup à ta couleur, ou, en tout cas, c'était déjà ta couleur, mais définitivement, c'est très
Oui.
cohérent, tout ça.
Ah, ben, c'est ça. On pourrait dire que ça vient enrichir mon parcours. Puis ça arrive encore des fois que j'ai des gros coups de cœur pour certaines choses. Puis tu sais, après ça, ben, c'est ça. Moi, j'ai la tête pas mal pleine d'idées. Puis je prends plein de notes. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a tellement de choses que ben, finalement, là, j'écris des livres.
Elle donne des
Parce
conférences,
que.
elle écrit des livres. Bon, mais quand
Oui.
on est passionné, hein?
Ouais, c'est ça. Puis je me dis, ben, ça rejoint encore plus de personnes. Tu sais, tantôt, je disais, ben, c'est important de se parler de ces choses-là, puis de ce qu'on veut vraiment, parce que je pense qu'on a peut-être plus de pouvoir que ce qu'on peut penser des fois. Tu sais, des fois, on sent que ah, il n'y a pas grand-chose à faire, ça fait longtemps que c'est le même, là. Ben, moi, je pense que si on se parle, puis on se regroupe, puis tu sais qu'il y a des situations qu'on perçoit qui peuvent être améliorées. Il y a des choses à faire, définitivement.
Absolument. C'est tellement important ce que tu fais, vraiment là, continue. Puis en plus autant la porte là, pour s'accepter parce qu'on vieillit, tout le monde vieillit, c'est le âge
Oui.
même. Donc cette porte-là, elle est magnifique. Puis la porte aussi de l'alimentation intuitive, et tu es une vulgarisatrice aussi tellement. C'est vraiment le fun de t'écouter. C'est tout doux. On dirait que c'est facile à assimiler aussi. Puis on a envie de suivre ce courant-là. Donc, ça prend des gens comme toi là, pour aider à ces changements-là dans le monde féminin.
Ben, merci beaucoup, Evelyne. Puis, tu
Puis.
sais, je t'écoute pas. Oui,
Ben,
vas-y.
c'est ça, vas-y, parce que j'aimerais ça aussi que tu nous dises si tu as un message à transmettre
Oui.
aux femmes.
Ben, en t'écoutant, tu sais, ça me fait penser, ben, j'aime ça, moi, dire que les femmes brillent à tous les poids et tous les âges. Des fois, je l'indique dans mes dédicaces aussi. Puis, dans le sens que, on a des modèles, hein. Moi, j'ai fait l'exercice dans mon livre T'es belle pour ton âge, là, au dernier chapitre, là, de voir, de penser c'est qui nous inspire. Puis là, on peut faire l'exercice avec des femmes parce qu'on est des femmes, mais on pourrait le faire avec des hommes aussi. Mais disons qu'on regarde c'est qui les femmes qui nous inspirent. Moi, j'ai fait une liste, là, j'en ai noté une centaine, puis je pourrais en ajouter encore, ce serait facile, là. Après ça, j'ai regardé, mais ces femmes-là, là, est-ce que c'est seulement des femmes jeunes et des femmes minces? Non. C'est très, très varié, là. Ça va jusqu'à 100 ans, là. Tu sais, il y a des femmes qui sont plus jeunes que moi, il y en a qui sont plus vieilles. Ben là, après ça, ben là, il y a une diversité corporelle, c'est sûr. Mais de penser que, tu sais, nous aussi, on est un modèle. On est modèle de quelqu'un, assurément. Ou sinon, qu'est-ce qu'on veut laisser comme modèle? De quoi on aimerait que ça peut être nos neveux, nos nièces, nos enfants, ça peut être des personnes plus jeunes, mais ça peut être des personnes plus vieilles aussi. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme souvenir, par exemple? Pas parce qu'on va mourir demain. Mais juste
C'est tellement
de penser
important ce que tu es en
à
train de dire là.
ouais. Puis, tu sais, je me disais, est-ce qu'on veut que les gens se souviennent de nous parce que on était minces et on avait l'air jeune? Tu sais, je me dis, probablement que c'est pas ça que les gens vont pas se rappeler de ça. Fait que, tout ça pour dire que on accorde souvent beaucoup, beaucoup d'importance, tu sais, au poids puis à l'âge, alors que, ben, je sais pas, là, mais moi, j'ai fait cet exercice-là. Des fois, je me suis inspirée de ça dans des groupes, puis c'est jamais ressorti, là. Moi, j'aime cette personne-là parce qu'elle est mince ou je l'aime parce qu'elle est jeune, là. C'est jamais revenu, là. On aime les gens qui nous font rire, les gens qui sont bienveillants, qui sont intelligents, qui sont attentionnés. C'est de ça qu'on se souvient, ou c'est ça qui va nous marquer aussi. Donc, quand je parle de notre rôle de modèle, c'est pas pour se mettre la pression d'être parfaite, là, au contraire, mais c'est juste de reconnaître ça, puis de voir même s'il y a des améliorations possibles, puis de voir ça comme ça, mais c'est pas, tu sais, c'est pas, c'est juste que la minceur, puis l'âge, la jeunesse, souvent c'est surévalué, mais encore là, c'est des normes de beauté, puis c'est pas des lois. Ça, je pense que c'est vraiment important de se rappeler de ça.
De ne pas oublier qu'on est des modèles, c'est très touchant ça parce que c'est vrai, on est toutes des modèles. Puis à un moment donné, on est responsable aussi de ce qu'on laisse comme message aux personnes pour qui on est des modèles. Donc c'est vraiment très touchant ça, je trouve. Cet angle-là, je trouve qu'il, en tout cas, peut vraiment nous faire comprendre plein de choses. Ouais,
Oui,
ouais.
puis encore là, c'est pas parce qu'on doit être parfaite, là, mais juste des fois de
Non.
discuter
Ben.
d'image corporelle, discuter de tu sais, des fois ça se peut qu'au cours de notre vie, on a eu des préoccupations. Des fois, je discute avec des femmes qui me disent ah, mais là, j'ai pas donné un bon exemple à ma fille ou à mon garçon, ou tu sais, ben là, on peut en parler aussi, tu sais, que les choses ont peut-être changé dans notre tête, puis tu sais, c'est des discussions super intéressantes qu'on peut avoir, puis des fois on ne parle pas souvent de ça. Je pense que d'être bien intentionné, là, ça c'est super. C'est pas d'être
Ouais, ah
parfaite
ouais.
le but, hein.
Ouais, parce que de comment on prend soin de nous, les gens, ça, le voient. Tu sais, ils vont pas voir notre minceur, ils vont pas voir, mais comment on se traite, ça fait partie des legs. Alors, c'est
Oui,
important, je pense,
c'est ça.
dans cette
Oui.
optique-là. Ouais. Puis, écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié notre rencontre. Je suis vraiment contente qu'on ait pu le faire. Je sais que tu pars en vacances. Je vais te souhaiter des belles vacances. Et vraiment, un grand, grand merci. Je n'ai pas pensé de regarder sur le site du monastère des Augustines, si elle est encore
Oui.
disponible, mais de toute façon, cette formation-là, je la recommande à toutes les femmes qui nous écoutent. Ça vaut vraiment,
Oui,
vraiment la peine.
elle est encore là. C'est ma recette pour se nourrir avec bienveillance. Je sais plus, bon, on va voir. Et elle fonctionne encore bien. Un jour, on l'enlèvera sûrement, mais pour
Sur
l'instant,
le
elle est encore là.
monastère, le site du monastère des Augustines, la recette pour.
C'est ma recette pour se nourrir avec bienveillance. C'est un
C'est
petit clin d'œil, hein. Je dis souvent qu'il n'y a pas de recette, là, mais ça, c'est la mienne.
ça.
Ouais.
C'est super. En tout cas, un gros, gros, gros merci pour ta générosité, pour ton énergie, puis pour le beau message que tu portes ou les beaux messages que tu portes, pour les femmes. Continue, je t'encourage parce que ça fait vraiment du bien de t'entendre.
Ah, ben merci beaucoup, Evelyne, pour tes bons mots. Ça me touche beaucoup. Puis merci d'offrir cet espace-là pour discuter de ces sujets-là. C'est quand on a du temps pour le faire, parce que quand on est pressé, on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces en profondeur c'est des sujets, évidemment, puis on pourrait même en parler encore très longtemps, mais tu sais, je pense que ça donne un bon aperçu, mais c'est quand même complexe, hein? Si on est pressé, là, souvent, on ne peut pas parler de ça en 2 minutes, là. Donc, ça, c'est vraiment le fun d'avoir un espace pour le faire. Puis, je te remercie beaucoup.
Un grand plaisir. À bientôt.
Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens.